Peut-être que simplement on pourrait commencer par vous demander de décrire un peu l'endroit où on est, enfin de nous dire où on est et pourquoi est-ce qu'on est là.
Ben, nous sommes au centre culturel Blaise Senghor, qui est le plus grand centre culturel du Sénégal, qui est le centre culturel de la capitale du Sénégal, Dakar, ici en Afrique de l'Ouest. Nous sommes à la pointe de l'océan Atlantique et nous sommes dans un espace où il y a une salle de théâtre, il y a une salle de danse, il y a le festival de danse, il y a le bureau du hip-hop, il y a le bureau des graffeurs, il y a aussi le bureau des stylistes. Et nous, nous sommes particulièrement dans un espace social qui s'appelle le restaurant Casa Outen d'Embangay. Et là, voilà, nous sommes là.
Et il y a manger tous les midis
Massambagay. Massambagay vient tous les midis ici et je suis entré ici la première fois en 1998. Et je ne suis pas ressorti. Depuis 1998, quand je suis à Dakar vraiment et que je n'ai pas une obligation ailleurs, tous les midis, je viens manger ici.
Pourquoi ?
Manger ici parce que, comme je dis, pour moi, le choisir de rester à Dakar, c'était une philosophie de vie. C'était rester à Dakar pour éviter la fuite, aussi ce qu'on appelait la fuite des cerveaux. Parce que quand on a eu la chance d'avoir le bac, d'avoir une maîtrise, d'avoir un doctorat, on peut être considéré comme parmi des gens qui ont de la chance. Et de rester ici, c'était aussi de montrer aux jeunes qu'on pouvait se réaliser à partir d'ici. Mais de rester à Blaise Senghor, c'est un état d'âme. C'est ne pas perdre mon rapport avec moi-même, ne pas me perdre dans les méandres des nominations et rester artiste, rester simple, avec des gens simples. Avec des gens, des artistes, de véritables artistes, et garder mon âme d'artiste et continuer à créer, à jouer sur scène pour que les fonctions officielles ne soient pas au-dessus de mon instinct de créateur et d'artiste. C'est pourquoi le Centre culturel Blaise Senghor, c'est un espace neutre. Et bien voilà, ici, il n'y a pas de patron, il n'y a personne. On est des artistes, quoi. On est des amis. Quoi. Voilà, c'est pourquoi je viens manger ici tous les jours. Et ensuite, c'est le seul restaurant où quand on n'a pas d'argent, on peut, voilà, pour manger quand même.
Est-ce que vous pourriez nous décrire l'endroit pour les gens qui n'ont pas d'image là ?
Pour les gens qui n'ont pas d'image, là où je suis, je suis au bord d'une route très fréquentée. À ma droite, nous avons l'École nationale d'administration et nous sommes coincés entre l'École d'administration, le lycée Blaise Diagne, où il y a beaucoup de vendeurs de fleurs sur peut-être 300, 400 mètres. Et il y a aussi en face d'eux des vendeurs de poulets vivants. Et juste à l'entrée, il y a des laveurs de voitures. Il y a des taxis qui sont en jaune noir. Et voilà, dès qu'on rentre dans notre espace, on rentre par une porte avec les drapeaux du Sénégal. Mais c'est un espace boisé, beaucoup d'arbres. On a des cocotiers, on a des arbres d'Afrique. Et là où nous sommes, c'est un restaurant en zinc. Voilà, en zinc avec des tables, une dizaine de tables autour de nous. Et voilà, un peu herboisé. Il y a du sable. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit toujours le sable. On est dans un espace un peu ouvert, rien n'est fermé. Et ça sent la cuisine. Ça sent bien.
Ça tombe bien parce qu'effectivement, le mafé arrive.
Voilà, vous voyez, aujourd'hui, il est en train de nous poser son mafé. Et ça tombe bien, le mafé arrive au bon moment. Et vous voyez, ce n'est pas les serveurs qui amènent, c'est
le
directeur lui-même du restaurant qui nous sert. Et voilà, c'est un mafé, un plat qui est né au Mali. Qui est né au Mali et mafé en bambara signifie la sauce. Donc c'est du riz blanc avec une sauce graine d'arachide et de la viande, souvent de mouton ou de bœuf.
Quel est le rapport, c'est une question très large, mais quel est le rapport entre l'oralité et la nourriture ?
L'oralité et la nourriture, c'est extrêmement important ici en Afrique de l'Ouest, parce que particulièrement au Sénégal, parce que ma mère me disait souvent, on ne mange jamais le plat qu'on nous donne, on mange le mot qui nous invite. On me disait, si quelqu'un vous donne un plat et vous dit « merde, mangez », vous ne mangez pas. Mais il dit, même si vous n'avez pas faim et que la personne vous invite avec un sourire, vous allez manger. Donc, dans les repas africains, tout est autour de la parole, de la conception du repas jusqu'à la base, de la décision de cuisiner, de la manière dont on informe la façon de cuisiner. Sauf que quand on commence à manger maintenant, c'est le silence. Mais on se tait, c'est le seul moment où on se tait, mais on se tait parce qu'on pense à ceux qui ne mangent pas. On dit qu'il faut honorer la faim de ceux qui ne mangent pas au moment où on mange. Et il y a beaucoup littérature autour du repas. Vous entendrez par exemple, on ne dit pas nous bon appétit. Là, quand il a posé, il a dit mangez la paix. Et quand on invite quelqu'un, on lui dit viens manger. Et il ne dit pas j'ai pas faim. Il dit Natidjamou Bari. Je vous souhaite beaucoup de paix dans votre repas. Et quand vous avez fini de manger, on ne vous dit pas est-ce que c'était bien. On vous dit digérer en paix. Nerezagiam. Donc vraiment le repas c'est d'abord la façon dont on vous invite. Et quand vous entrez dans une famille, la façon dont on vous parle avant le repas, vous savez si vous êtes bienvenu ou si vous êtes malvenu. Voilà. Donc dès que vous arrivez et que vous entendez se plaindre des gens qui passent tout leur temps à manger chez les autres, on parle de vous. Donc voilà. Chaque repas maintenant a aussi une philosophie. Là, on mange,
en silence à ce moment-là, c'est ça?
On va faire exception pour l'émission. On va manger et parler. Ben, on s'excuse auprès des auditeurs. On s'excuse. On ne peut pas vous inviter.
Et votre bureau, alors, c'est où et vous y faites quoi?
C'est compliqué. Mon premier bureau, c'est ma voiture. Parce que je suis quelqu'un qui est très mobile et qui travaille sur plusieurs projets en même temps. Donc j'ai un bureau à la présidence de la République en tant que conseiller, un bureau administratif, mais que je quitte le matin dès que je finis mes tâches pour venir ici. Ici, le restaurant est mon bureau avec les acteurs culturels, où je rencontre les gens toute la journée, change avec eux.
Troisième bureau déjà.
C'est mon troisième bureau, mais pas au sens conjugal du terme. Parce que ici, deuxième bureau, ça veut dire que vous avez votre maîtresse. Troisième bureau, c'est la seconde maîtresse.
Ah, c'est vrai?
Ah ben oui. Ah ben oui, voilà.
On appelle ça des bureaux?
Les bureaux. Pour ne pas dire ma maîtresse, on dit mon deuxième bureau.
Faire affaire.
Comme ça, ouais. Personne ne comprend. Et il y a vraiment maintenant mon véritable bureau en tant que créateur qui est la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, qui est une structure que j'ai mise en place depuis 2000, qui est un centre de résidence artistique.
Mais alors ça existe un quatrième bureau à ce moment-là?
Oui, là j'ai mon... Mais vraiment, c'est vraiment au cœur de mon projet artistique, il est premier. Il est premier, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine Cœur Leti, parce que c'est vraiment l'espace résidence où on essaie de transmettre, on essaie de former des jeunes, etc. Ici, c'est pour les rencontres publiques, mais pour la construction de mon identité d'artiste, c'est vraiment aussi la Maison de l'Oralité. Donc voilà, c'est pourquoi je ne peux pas dire que c'est ici mon bureau, mais mon véritable bureau pour moi, c'est la rue. C'est là où je rencontre les gens. Mais il est bon ce moment-là.
Très, très bon.
Tout à l'heure, vous disiez... Si on ne reconnaît pas ce qui t'a élu, enfin, vous disiez le proverbe de votre mère qui disait si on ne reconnaît pas ce qui m'a élu, mm-hmm. alors tu vas tomber,
oui.
quoi, tu vas être déchu. Et du coup, je me demandais d'où est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous venez et d'où est venu du coup toutes ces recherches sur l'oralité.
Oui, c'est très bizarre. Moi, je suis quelqu'un qui est. Il y a eu un père qui était infirmier dans la Brousse. Qui est né dans un village, je suis dans la même région que l'ancien président Abdou Diouf, qui était président du Sénégal, deuxième président de l'OIF. J'ai fait mes études dans la ville où il est né, mais je suis dans un petit village. Donc quand on est dans un petit village, élevé par une grand-mère, parce que moi j'ai la chance d'être élevé par des femmes, donc j'ai pris aussi cette puissance des femmes. Et très tôt, on était dans une grande maison, mon père avait des chevaux de course, etc. Donc c'était une grande concession, et dans cette concession-là, la nuit, il y avait des lits partout dans la cour et ça c'est une tradition quoi, ça faisait un cercle et les gens parlaient à voix haute, il n'y avait pas d'électricité. Déjà cette poésie de la nuit, ça m'a donné envie de dire des choses aussi qui pouvaient intéresser les gens. Et plus tard, je suis arrivé à Louga dans cette région-là où j'ai fait mes études jusqu'au bac. Donc à 11 ans et demi, j'étais plus chez ma mère, chez mon père. Il m'est arrivé de ne pas manger à midi. Il m'est arrivé de vivre dans une famille qui a déménagé. J'étais en cinquième, j'avais 12, 13 ans. Donc je me suis accroché au basket. Je suis allé faire du basket, je suis allé faire de l'athlétisme, je suis allé faire du football. Donc pour ne pas sentir que j'ai faim, que j'étais seul dans cette grande ville où je n'avais pas d'appui, donc le sport m'a un peu sauvé aussi. Et plus tard, très tôt, j'ai commencé à écrire des pièces de théâtre pour dire ce que je sentais à partir de 15 ans. J'ai fait des pièces de théâtre dans mon village, je montais des troupes de théâtre. Et à 16 ans, j'étais déjà président d'une équipe de football. Donc dans mon village, donc essayer d'exister. Et c'est comme ça que quand j'ai eu le bac, je suis arrivé à Dakar. Le professeur, notre professeur à l'Université de Dakar nous a donné un exercice. Et sous l'exercice, il a dit, pour de plus amples informations sur l'histoire du Sénégal, contactez la famille de Leïty Gissé. Et j'ai eu un problème. Parce que Leïty Gissé était le père de ma mère. Et on me demandait, moi, étudiant, de contacter ma propre famille. Sauf que je ne savais pas ce qu'on nous demandait. J'ai dit, tiens, il y a un problème. Il y a quelque part un problème. Donc, je suis de quelle famille ? Et je suis allé voir ma grand-mère, heureusement qu'elle était encore vivante, et qui m'a dit, mais tu ne sais pas que Leïty Gissé, c'est le dépositaire de l'histoire du Sénégal. J'ai dit, non. Elle dit, mais à l'IFAN, l'Université Charente Diop, les documents avec lesquels vous apprenez l'histoire du Sénégal, ce sont des documents qui ont été enregistrés chez nous.
Ça, vous le saviez pas ?
Je ne savais pas. Je n'avais aucune conscience de ça. Moi, j'étais un étudiant qui connaissait la chanson de Roland. Je connaissais ce qui s'était passé à Roncevaux. Je savais au XIIe siècle comment Ganelon a été écartelé. Je savais que Aude était la fiancée de Olivier. Je savais ça, je savais ce qui s'était passé.
Ce que beaucoup d'étudiants français ne savent pas.
Voilà. Je savais que Montesquieu était aussi clerc pour la justice. Je savais ça. Je savais comment Pantagruel était né, comment Gargantua était né. Je connaissais ça. La mythologie grecque, je l'avais apprise. Mais je ne savais rien de l'histoire de mon propre pays. Parce qu'à l'école, on ne nous enseignait pas cela.
Et de votre propre famille, surtout.
De ma propre famille, surtout. Mais je me suis dit, mais tiens, si demain les étudiants viennent me demander moi ces informations, qu'est-ce que je vais répondre ? Et j'ai dit, je n'ai pas le droit de trahir cette mémoire-là. Donc c'est comme ça que je suis allé faire mes recherches. Et à l'interrogation orale, le professeur m'a posé la question sans savoir que j'avais la réponse. Et le professeur Samba dit un peu à son âme. Et j'ai donné la réponse sur l'histoire de la fondation du Sénégal et pourquoi le Wolof est aussi prégnant. Il m'a dit, mais vous êtes trop jeune pour savoir tout ça. J'ai dit, bon, je le tiens de ma famille. Il dit, mais qui est votre grand-père ? J'ai dit, Leïty Gissé. Il me dit, c'est faux. C'est pas vrai, Leïty Gissé n'a pas d'héritier. Il me dit, sortez votre carte d'identité. Je sors ma carte d'identité, il voit le nom de ma mère.
Il était devenu policier d'un coup là.
Mais oui, il me dit, sortez votre carte d'identité. Parce que pour lui, c'était des affabulations d'étudiants qui cherchaient une bonne note. Je sors ma carte d'identité, le professeur Sambadien me dit, mais c'est vrai. Donc Leïty Gissé a des petits-fils. Et il a arrêté l'interrogation orale quand j'ai fini et il m'a raccompagné pour me convaincre de faire de la littérature comparée pour pouvoir aller vers la littérature orale. Donc c'est plus tard ce que j'ai fait. J'ai fait un mémoire de maîtrise en littérature comparée en travaillant sur comment l'oralité a rendu fort l'écriture des romans marocains dans le Maghreb par Tahar Ben Jeloun. Et après j'ai fait un DEA en littérature comparée pour montrer que la littérature sénégalaise, les romans sénégalais et les romans marocains sont des romans écrits à partir d'une structure orale mais pas d'une structure syntaxique écrite française. Et plus tard, 10 ans plus tard, j'ai fait en 2009 un doctorat sur purement l'évolution du conte. Et le sujet, c'était d'étudier le conte traditionnel, du conte traditionnel au conte moderne, étude des variations et des permanences thématiques et stylistiques. Et j'ai fait 10 ans à enregistrer les conteurs sénégalais, les conteurs québécois qui venaient ici, les conteurs africains qui venaient ici. Donc toutes les séances, et c'est ce corpus-là que j'ai essayé d'exploiter. Pour montrer. Donc cette passion de l'oralité est née d'une frustration.
Vous avez enregistré tous ces conteurs pour garder la mémoire de ces traditions orales, c'est ça ?
Oui, sur 10 ans, je les ai tous enregistrés et j'ai encore les enregistrements.
Vous avez toujours les enregistrements ?
Oui, oui. D'accord. Et c'est après. C'est pour ça que je suis allé directement à la radio en 2000, et j'ai installé une émission de contes radiophoniques qui s'appelle Contes et légendes, qui est bilingue, qui est en français et en wolof, simultané, il n'y a pas de traduction. Je raconte dans les deux langues 15 secondes, sans qu'une langue soit au-dessus d'une autre. Et depuis le 3 décembre 2000, cette émission existe encore.
Quand vous racontez votre histoire de votre parcours, vous parliez, en fait, en racontant ça, vous dites aussi comment dans l'éducation, il y a l'absence totale de la connaissance et la transmission de ce que c'est l'histoire du Sénégal. Et en fait, j'ai entendu que vous disiez qu'il fallait passer du grenier de la mémoire à la bouche des jeunes. Et c'était assez beau parce que j'avais l'impression que vous cherchiez aussi à trouver les mots dans d'autres générations et de faire des ponts comme ça entre les générations. Et quand on parlait aussi tout à l'heure, je sentais une envie, en tout cas une recherche de liberté. Vous parliez du restaurant ici où c'est assez libre et les gens se parlent entre eux. Et vous parliez aussi de cette maison de l'oralité du patrimoine, où de ce que j'ai compris, vous avez vous-même investi avec vos propres réserves d'argent pour garder une sorte de liberté, c'est ça ?
Mais oui, la liberté, c'est vraiment le mot-clé. La liberté et la transmission. C'est vrai que pour moi, le patrimoine, c'est un grenier. C'est comme un réfrigérateur qu'on ouvre. Quand on ouvre le réfrigérateur, on prend les choses dont on a besoin pour le repas immédiat. Mais on ne prend pas tout. Donc le patrimoine aussi, pour moi, c'est un grenier. Il faut partir du grenier de cette mémoire-là pour qu'on ait un discours moderne et un discours que les jeunes portent. Parce que si les jeunes ne portent pas ce discours, on est en rupture. Et c'est pourquoi on est beaucoup dans la transmission, on est aussi beaucoup dans la liberté. Samedi dernier, j'étais au Grand Théâtre, mais c'était pour participer à ce qu'on appelle le Hip-Hop Awards, le Galsen Hip-Hop Awards. Et j'y ai participé et je suis monté sur scène pour dire aussi cette forme de parole. Et cette forme de parole-là, elle est une parole moderne. La liberté, elle est essentielle dans la création. C'est pourquoi, quand j'ai voulu faire la Maison de l'Oralité, je me suis dit pas de subvention, ni de l'État, ni des institutions européennes, ni mondiales, pour être libre dans la structuration de cet espace-là, pour éviter ce qu'on nous a imposé au Sénégal, les maisons à 150 mètres carrés, avec deux salons, une cuisine, deux chambres, une cuisine et un salon, ce qui a complètement tué notre convivialité circulaire.
Et sans grenier.
Sans grenier. Et il n'y avait plus ni grenier de mémoire, ni grenier physique.
Parce que à la base, les maisons, c'est plutôt une seule pièce où tout le monde se retrouve.
Oui, il y a des communautés avec une seule pièce où tout le monde se retrouve. Il y a des communautés, il y a plusieurs pièces, mais toutes ces pièces-là donnent sur l'espace central de la maison où on se retrouve pour dire des comptes, pour régler le conflit, etc. Aujourd'hui, nous avons des maisons à 150 mètres carrés et nous avons des couples qui tiennent de moins en moins longtemps. Nous avons beaucoup de tensions parce que tout est en linéarité alors que notre conscience est en circularité. Donc c'est pourquoi on a voulu faire ça et sur la Maison de l'Oralité mettre une grande case et mettre des matériaux occidentaux en bas pour montrer que voilà, il faut inverser. L'Afrique a subi la colonisation, l'Afrique a supporté le monde par l'esclavage. Aujourd'hui, il est temps que le monde aussi supporte l'Afrique un peu plus. C'est une philosophie pas de conflit, mais d'alerte pour dire aux gens, d'accord, voilà, nous on n'est pas vindicatifs. On n'est pas aujourd'hui, un jeune Français, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Il est responsable de rien du tout. Il n'est responsable que de ce qu'il va faire. Il sera jugé. Mais est-ce qu'on n'est pas responsable ensemble du destin de ce monde-là ? Est-ce qu'on ne doit pas construire, comprendre qu'on ne peut pas écrire du noir sur du noir et qu'on ne peut pas écrire du blanc sur du blanc ? Et qu'il faut que le blanc mette en valeur le noir et que le noir mette en valeur le blanc. Ça, même le tableau et la craie, ils l'ont compris. Pourquoi pas nous les hommes ? Donc moi, je suis dans cette philosophie-là, vraiment de la transmission, transmettre. Pour moi, réussir dans la vie, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas avoir des immeubles. Réussir dans la vie, c'est, comme le disait mon père, il me disait la longévité. Ce n'est pas de vivre longtemps sur Terre, c'est de faire que la Terre vive mieux longtemps. Il me dit, si vous mourrez, il me disait, si à votre mort, les gens ne pleurent pas, vous avez échoué. Et d'ici après votre déménagement, le quartier ne pleure pas, vous avez échoué. Il me dit, voilà les deux choses qu'il faut réussir dans la vie.
Un déménagement et une mort.
Et une mort. Et si, il dit, si vous devez déménager, il faut que les gens autour de vous se sentent malheureux. Parce que vous leur serviez à quelque chose. Et dit, à votre mort, il faut que le monde se sente triste. Parce que vous serviez à construire le monde.
Il faut faire un déménagement sans ménagement.
Voilà, il faut faire un déménagement sans ménagement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur des choses physiques qui sont très bonnes. Aujourd'hui, n'eût été ce micro, on n'aurait pas fait cette émission. Donc le monde matériel, il est bon. Nous sommes des corps, nous sommes une matérialité. Mais cette matérialité-là, quand on meurt, on se rend compte qu'elle n'est pas l'essentiel. Il y a quelque chose qui part, qu'on ne peut pas toucher et qui fait qu'on ne peut plus bouger. Donc l'essence du monde n'est pas dans les choses matérielles. Mais ce sont les choses matérielles qui représentent notre force immatérielle. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut forger des esprits nouveaux, forger des jeunes nouveaux, pour leur donner la force, la puissance de la parole utile. Vous savez, lorsqu'un président de la République dit à un autre président « Je vous déclare la guerre », ce ne sont pas des mots qui vont suivre, ce sont des actes qui vont suivre. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, les jeunes soient formés à ce qu'on appelle la parole essentielle. C'est cette parole de construction qui n'a de sens que dans la vérité. Il y a trop de conflits en nous. nous ne savons pas qui nous sommes en Afrique de l'Ouest. Nous sommes hybrides. Parce que nous avons bénéficié de beaucoup d'apports du monde, mais nous les avons mal digérés. Aujourd'hui, vous prenez quelqu'un comme moi, qui a commencé ses études dans un dara coranique, qui est allé faire tout son processus dans l'école française. Il est qui ? Quand je fais ma prière, je suis en mode arabe. Mais quand je fais mon mariage, je suis en mode, à la réception, je suis en mode occidental. Mais une heure avant, j'étais en mode arabe dans la mosquée. Et quand mon ménage va mal, je retourne au village en mode traditionnel. Cette névrose culturelle-là, c'est une richesse, mais il faut vraiment la digérer.
On vous fait beaucoup parler, mais on peut peut-être manger un petit peu, ça va être froid.
Mais oui, on va manger. On va manger, bon appétit.
Merci.
Ça tombe bien, il y a mon téléphone qui sonne.
Ça tombe mal si vous vouliez manger. Mais...
Non, je ne prends jamais quand je mange. Mmh. Bon appétit. Hey, mon esclave. Tu as pris combien de plats ? Deux. Tu as trois petites assiettes autour de toi. C'est une gourmande. Ça va ? Oui, merci bien. Son nom de famille, c'est Sec. Moi, mon nom de famille, c'est Gay. Donc, on est des cousins à plaisanterie. Même si on ne se connaît pas, on peut plaisanter.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de cousin en plaisanterie ?
Oui, dans l'autre table, il y a une grande dame qui est en train de manger, mais j'ai découvert que son nom de famille, c'est Sec. Moi, mon nom de famille, c'est Gay, donc c'est ma cousine à plaisanterie. Même si on ne se connaît pas, on se fait ces libertés-là. Je regarde, il y a trois petites assiettes autour d'elle, donc je la taxe de gourmande. Et maintenant, c'est notre jeu entre elle et moi, c'est qui arrive le premier dans le restaurant. Il est le plus gourmand, mais c'est né d'une... c'était quelque chose qui existait, mais qui a été institutionnalisé en 1239. En 1239, il y a eu une grande guerre ici en Afrique de l'Ouest entre Sundiata Keïta et Soumaoulou Kanté, là-bas dans le Mali, dans le Mandé. Et suite à cette guerre, Sundiata a regroupé tous les chefs de tribu. Il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on se fait la guerre ? Ils se sont posés pendant 2-3 mois. Et chacun a dit ce qu'il ne voulait pas. Et ils ont écrit ce qu'on appelle une charte. La charte du Mandé en 1239, 44 articles. Et cette charte, dans cette charte-là, la première règle, c'est que toutes les communautés sont des cousins. En tant que cousins, on plaisante, mais on ne se fait pas la guerre. Et il y a une plaisanterie entre des groupes ethniques, les Peuls, les Diola et les Sérères. Vous avez par exemple les forgerons du côté du Mali, vous avez ça. Du côté du Burkina, vous avez ça. Ici au Sénégal, vous avez des noms de famille. Dès que vous saluez quelqu'un, c'est pourquoi quand vous saluez quelqu'un au Sénégal, vous ne demandez pas son prénom, vous demandez son nom de famille. Et dès qu'il vous donne son nom de famille, ça déclenche la possibilité d'être sur des plaisanteries.
Mais donc les gays et les secs ont des plaisanteries particulières que vous n'auriez pas avec des gens qui portent un autre nom de famille.
Non, non, on ne peut pas avoir ça avec des gens qui portent le nom de Cham, de Sar. Mais voilà, c'est vraiment... mais ce qui est bien, c'est que le cousinage à plaisanterie engage des noms. Par exemple, les gays, les secs et les diaou. Ici. Mais quand je me déplace un peu plus vers le centre du pays, le cercle s'agrandit. Ça devient les secs, les gays, les diaou, les ndiaï et les diop. Maintenant, vous pouvez ne pas être cousin à plaisanterie avec quelqu'un à partir du nom de famille, mais l'être à partir de l'ethnie. C'est-à-dire que je suis sec, je suis gay, vous êtes Ndiaye, ou bien vous êtes Fall. Votre nom de famille, c'est Fall. Donc, sec, au nom des noms, on n'a pas un cousinage à plaisanterie. Mais je suis Serer et vous êtes Peul. À partir de ce moment, il y a un cousinage qui fonde sur l'ethnie, qui fait que ces ethnies ne peuvent pas se faire la guerre. Sauf que comme vous êtes cousin de quelqu'un qui est cousin de quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une guerre ethnique. C'est pourquoi le conflit en Casamance est resté en Casamance. Il n'est jamais tombé sur une guerre ethnique qui peut toucher les gens. Parce qu'en Casamance, même quand la communauté Diola est en colère, elle ne touchera jamais un gouverneur qui est Serère ou un gouverneur qui est Peul. Donc c'est des codes inconscients qui sont installés, qu'on n'apprend pas dans des familles, mais qui sont reproduits à un schéma exceptionnel. Et à l'intérieur de la famille aussi, dans les ménages, pour régler les ménages, le cousinage à plaisanterie existe. La grand-mère et le grand-père sont toujours les cousins du petit-fils.
Donc c'est une charte très ancienne qui permet d'éviter en fait, les conflits se généralisent à l'intérieur du pays.
Exactement, parce que c'est une charte qui tue la possibilité de conflit. C'est-à-dire que dans un cas rapide, vous êtes là, dans un transport en commun au Sénégal, deux gens se crêpent les chignons, ils s'insultent. Mais automatiquement, quand quelqu'un entre et dit « mais vous êtes Sambou », il dit « si je savais que c'était un Sambou, je ne lui aurais pas parlé, c'est un idiot ». Les Sambous sont des idiots et ça part d'un éclat de rire. Donc c'est vraiment une clé aussi pour débrider des situations qui pouvaient aboutir à des morts. Et ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai des filles de 8 ans, j'ai une fille de 19 ans, mais même la fille de 8 ans, je la surprends en train de le faire avec des adultes. Et ça écrase les rapports. Vous pouvez avoir 10 ans, dès qu'une personne est votre cousin à plaisanterie, l'âge n'existe plus. C'est pourquoi des gens sont sur des schémas et disent « En Afrique, les jeunes ne peuvent pas parler aux vieux », c'est faux. Quand le vieux est votre cousin à plaisanterie, vous avez toutes les libertés pour lui parler sur tout le ton que vous voulez.
Non, pour revenir sur cette question de l'oralité, peut-être des exemples. Moi, je travaille en ce moment sur l'œuvre du cinéaste Djibril Diop Mambéty.
Mais oui, un grand frère qu'on respecte beaucoup.
Et j'ai lu un peu à droite à gauche des choses qui m'étaient complètement étrangères avant ça, mais j'ai lu que par exemple un film comme Tuki Buki, C'était fondé en partie, enfin qu'une des références de Tuki Buki, c'était un conte qui s'appelle Luc le lièvre.
Mais oui, parce que Luc, en fait, c'est un personnage, c'est le personnage du lièvre qui est le personnage central de tous les contes ouest-africains presque. Il est un peu ce que l'ours peut représenter dans les contes polaires. Il est un peu ce que Tijan peut représenter dans les contes québécois. Donc il y a ce qu'on appelle les personnages archétypaux, qui sont des archétypes qu'on retrouve partout. Et le lièvre est le symbole de l'intelligence. Buki est le symbole de la débrouillardise.
Buki la hyène.
Buki la hyène. Et Buki la hyène est le symbole de quelqu'un qui tend des pièges toujours pour avoir des résultats faciles. Et Tuki Buki, ça veut dire
le
voyage à la hyène.
À la hyène, pas de la hyène.
C'est pas le voyage, parce que les gens ont mal interprété le titre. C'est pas le voyage de la hyène, c'est Tuki Buki. En Wolof, quand on dit Tuki Buki, ça veut dire, ça peut signifier le voyage de la hyène, mais de manière plus profonde, ça veut signifier un voyage à la hyène. Parce que quand on dit Bayre Buki, on dit la popularité de la hyène, on dit à quelqu'un il a Bayre Buki, ça veut dire qu'il est populaire, mais il a une popularité négative. Donc il faut faire très attention avec ce titre de Djibril Diop qui maîtrisait parfaitement le patrimoine oral. Il partait toujours de notre imaginaire pour faire ses films et Tuki Buki est un film magistral.
Pour être sûr de comprendre, c'est donc le voyage à la manière de la hyène, voilà. ou le voyage vers la hyène.
Mais oui, parce que quand on regarde dans ce film-là comment se passe le voyage dans le bateau, est-ce que c'est un voyage qui se passe dans les règles ou est-ce que c'est un voyage qui se passe pour quelqu'un qui va se débrouiller, qui va essayer d'éviter les pièges, qui va trouver des raccourcis. Voilà, la métaphore du film, c'est ça. C'est cet animal-là qui cherche toujours la proie facile, qui cherche toujours de manière félonne à piéger les gens, à avoir des raccourcis. C'est exactement ça. Ce n'était pas le voyage de la hyène, parce que dans le film, aucune hyène ne voyage. Mais ce sont des gens qui ont le caractère négatif de la hyène, qui sont toujours essayés de s'arnaquer les uns les autres. Donc le film est plus puissant quand il est lu comme ça. Ça va ? Ça avance les répétitions là. Bonjour, c'est le théâtre de l'Albe d'Italie. Ils sont en train de créer une pièce qu'ils ont déjà créée en français. Ils travaillent sur la version Wolof.
Il faut préciser bien entendu que Massam Bagué dit bonjour à tous les gens.
Je dis bonjour à tout le monde. Évidemment.
Bonjour.
Ça va ? Oui, mon frère. Comment vas-tu ? Ça se passe bien ? Merci, à tout à l'heure. Merci, ah ben oui, c'est normal, ça avance.
Est-ce que peut-être vous pourriez, je ne sais pas si vous en avez en tête, j'imagine que oui, est-ce que peut-être vous pourriez nous raconter un des épisodes de Luc le Lièvre ?
Mais oui, Luc le Lièvre, c'est environ peut-être 300, 400, 500, 600 contes. Mais je vous raconte quelque chose. Luc le Lièvre, un jour, il dit à Buki, allons vendre nos mamans, parce qu'on ne mange pas, on n'arrive pas à manger, allons vendre nos mamans. Il faut qu'on les vende pour pouvoir manger. Alors donc, ben voilà, le lendemain matin, ils amènent tous leur maman sur le marché hebdomadaire et voilà. Luc n'a pas vendu sa maman, mais a pris une vache et lui a la couverte du pain de sa maman. Et Buki a vendu sa maman, réellement. Et ils ont mangé l'argent. Ils ont fait la fête, ils ont fait comme des garçons qui enterrent leur vie de célibataire, ils ont voilà, fait tout ce qu'ils voulaient. Et deux mois après, Buki va chez Luc le Lièvre et trouve la maman de Luc. Il dit, mais toi, tu m'avais dit qu'on vend nos mamans. Moi, j'ai vendu la mienne. Pourquoi tu n'as pas vendu la tienne ? Ben, si tu es assez idiot pour vendre ta mère, c'est ton problème. Ben, moi, je ne vendrai jamais ma mère pour faire la fête, quoi. Comment tu peux être aussi bête pour accepter ça ? Et Buki lui dit, ok, d'accord. Je pense que même quand on a vendu ma maman, quand j'ai vendu ma maman, j'ai eu tellement de plaisir à manger que j'ai croqué un os et vérifie si je n'ai pas mal à la dent. Et c'est là que Luc a eu l'oubli de sa vie. Et a mis son doigt dans la bouche de Buki pour vérifier. Et Buki a pincé Et ils ont, il y a un chant qui est très populaire qui s'appelle Damoko et Dakodak, je vais couper, tu ne couperas pas mon doigt, etc. Donc voilà, ça c'est des épisodes qui sont succulents et que beaucoup de gens connaissent.
C'est drôle, vous dites succulent, je repensais à ce qu'on disait sur les rapports entre contes et nourriture. C'est vrai que le vocabulaire des contes est par ailleurs émaillé du vocabulaire de la nourriture.
Mais parfaitement, parfaitement, c'est vraiment le même discours. Parce qu'on ne consomme pas un conte, on le vit, on le mange. Donc le conte, c'est pourquoi le conte sénégalais, il commence par les bonnes. Les bonnes, on racontait et le public répond les bonnes. Racontez tout. Il n'y a pas de censure. Il dit, le conteur dit à mon nafi, il était une fois, et le public répond Danna am. Cela arrivait souvent. Et il dit Bamou amé yene feke, en étiez-vous témoin? Et le public répond c'est toi qui racontes. Et à la fin, il dit c'est ici que le conte se jette dans la mer. Le premier qui en respire l'air, ira au paradis. Mais imaginez, quel est le mouvement des vagues? Si le conte va se jeter à la mer, c'est que le conte n'est pas perdu. C'est que la prochaine vague va ramener le conte. Avec le phénomène du ressac qu'on a au bord de la plage. Donc le conte, c'est quelque chose qu'on, dès qu'on finit, on le remet à la mer et le premier qui va le retrouver sur la plage le portera et le dira à sa manière. Le plat sénégalais, chaque femme le cuisine de sa manière, chaque homme le cuisine de sa manière. Le conte africain aussi, chacun le dit à sa manière. Il n'y a pas une version définitive.
Est-ce qu'il y a des grands contes sénégalais justement qui tournent autour du repas, de la nourriture?
Ah mais oui, il y a un conte très célèbre. L'un des contes les plus célèbres sénégalais, c'est autour des repas, c'est les trois gourmands. Ben oui, ces trois gourmands-là qui partagent un repas et à un moment, il y a deux gourmands déjà qui partagent un repas de haricots, il reste un haricot et personne ne veut le laisser à l'autre. Et à un moment, ils appellent un témoin, ils disent mais mort, viens. Voilà, il nous reste un haricot, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ok, donnez-moi le couteau, je vais le couper en deux, chacun de vous va prendre. Donc, il coupe le haricot, mort, le troisième, l'arbitre, le juge, il coupe le haricot, chacun prend une minuscule part de haricot, mais mort, lui, il regarde le couteau, il dit, ben, je ne vais pas laisser les traces de haricot sur le couteau, ce sera une perte. Et lui, il lèche le couteau, il se coupe la langue. Et on dit aux enfants qu'il est le plus gourmand des trois. On a un autre conte aussi, et ça c'est le spectacle que je suis en train de jouer en ce même temps et que je vais jouer peut-être certainement le 20 décembre à Conakry, à la grande nuit de l'oralité. C'est un couple qui a beaucoup de qualités, mais qui a deux grands défauts. Ce couple-là, c'est un couple de bavards et un couple de gourmands. Alors un jour, ils font des beignets et ils veulent se manger des beignets, ils mangent des beignets et il reste un beignet. Et le mari dit à la femme, je ne peux pas te laisser le beignet qui reste. La femme dit, je ne peux pas te laisser le beignet qui reste. Ils ont fait une semaine à se chamailler autour de qui va manger le beignet. Et à un moment, ils se disent, on pose le beignet au milieu et on se tait. Celui qui parle le premier, il perd le beignet. Il le pose et il ne parle pas pendant un mois. Un jour, un voleur qui passait par là constate que depuis un mois, il n'y a pas de bruit. Il dit certainement qu'ils ont voyagé. Donc, il rentre dans la maison. Personne ne veut parler, il voit le voleur qui prend les affaires, mais personne ne veut parler parce que tu te parles, tu perds le beignet. Donc, à un moment, le voleur se retourne et voit l'homme et la femme, il dit, mais à des statuettes, j'aime bien le modèle féminin. Mais je vais prendre le modèle féminin, je vais l'offrir à ma femme. Il prend la femme ne parle pas. Il sort, l'homme ne parle pas. Et au moment de franchir la porte, la femme dit à son homme, mais on vole ta femme, tu ne parles pas. Il dit, ah ben tu viens de perdre le beignet, je vais le manger. Mais voilà, donc ça, on a vraiment beaucoup de... Mais voilà, on a vraiment beaucoup de contes comme ça, sur la nourriture.
Et puis j'ai lu, donc, Luck le lièvre, Bouki la hyène, et puis Kaku Amanze l'araignée.
Oui, Kaku Amanze l'araignée, c'est les contes de l'Afrique de centrale. C'est les contes de la forêt.
Ah d'accord.
Oui, l'araignée n'est pas un personnage présent dans les contes de l'Afrique de l'Ouest. C'est plutôt des contes de l'Afrique centrale. Donc, il y a, dès que vous voyez l'araignée comme personnage central, vous êtes dans la forêt, dans la zone forestière. D'accord. Dès que vous voyez beaucoup de sable, vous êtes dans les contes du désert et du Maghreb.
Mais comment vous expliquez alors cette prégnance du lièvre dans la culture traditionnelle des contes?
Parce que le lièvre, le lièvre pour l'Afrique de l'Ouest aussi, c'est un animal totem. Vous allez chez les Serer, les Sènes par exemple, ils portent le même nom de famille que le lièvre. Et le lièvre était l'animal le plus proche de nos concessions traditionnellement et qui était le moins offensif. Donc qui n'attaquait pas les forêts, qui n'allait les troupeaux, qui n'attaquait pas les enfants, qui ne les tuait pas et qui est subitement devenu l'animal sympathique avec ses longues oreilles, symbole de sa richesse. D'ailleurs, c'est ce qui faisait le caractère du personnage Ablaye Wade, le deuxième président du Sénégal. Son surnom, c'est Ndiombor. Ndiombor, ça veut dire le lièvre, l'intelligent. Parce que pendant 27 ans, il a déjoué tous les pièges de Senghor pour arriver au pouvoir en 2000.
Il avait des grandes oreilles ?
Non, il n'avait pas de grandes oreilles. C'est le président Senghor qui l'appelait Ndiombor. Et même dans la littérature politique, il s'appelle par des animaux. Et vous me demandez la présence des animaux. Quelle est l'équipe nationale africaine qui ne porte pas le nom d'un animal ? Ben voilà. Parce que l'animal n'est pas un être à part. L'animal est un homme, une personne dans notre représentation, nous. Donc l'animal n'est pas quelque chose qu'il faut abattre, il faut pas jouer avec la vie des animaux. Moi, dans ma famille, on ne touche pas au varan, qui est une sorte de crocodile. On ne peut ni les toucher, ni les frapper. Quand on les voit, on les honore. Et ça, c'est très écologique. Quand vous avez un village avec 15 familles, et pour chaque famille, il est interdit de manger un animal, il y a 15 animaux qui sont protégés. C'était aussi un système de protection d'écologie.
Vous n'avez jamais fait de théâtre, vous ?
Ah si. Moi, j'ai fait du théâtre depuis 16 ans. J'ai toujours joué au théâtre. J'ai toujours écrit des pièces de théâtre. Voilà. Et actuellement, je coordonne pour l'Organisation internationale de la francophonie ce qu'on appelle la scène ouest-africaine en tant que membre de la Commission internationale de théâtre francophone.
Je jouais ça si vous avez été comédien surtout.
Mais oui, j'ai joué. J'ai toujours joué et actuellement je joue toujours. Je joue toujours, que ce soit dans quelques films, que ce soit sur scène. Mais sur scène, je joue plus en tant que conteur maintenant que comédien. Parce que le conte me donne plus de liberté. Je ne suis pas obligé d'apprendre un texte d'un metteur en scène pour le dire. Et la liberté revient toujours. Donc actuellement, mais j'écris, ma dernière pièce de théâtre, c'est Les Nérons d'Ébène, une pièce sur l'incendie des marchés, parce que j'ai constaté qu'il y a toujours des marchés qui brûlent. Et c'est une pièce autour d'un marché qui brûle. Le maire dit que c'est à cause d'un court-circuit, mais en réalité, le marché n'a pas d'électricité. Donc c'est autour de la corruption, etc.
Je voulais revenir sur cette question du patrimoine qu'on traverse depuis tout à l'heure. Et je me demandais comment concrètement, dans la maison de l'oralité du patrimoine, comment vous enseignez, du coup, j'imagine, comment ça s'organise en fait, cette transmission, mais aussi cette réappropriation.
Oui, il y a plusieurs façons. La première façon, c'est on a commencé par sensibiliser les gens en organisant, à chaque fois qu'il y a eu le 20 mars, la journée mondiale du conte, en organisant de grands spectacles de conte, en invitant des stars de la télé, des vedettes pour venir dire des contes. Les gens se sont rendus compte que c'était important. Et plus tard, on a mis en place des formations. Actuellement, Elage Lebon est en formation là-bas pour créer son propre spectacle de contes. On prend de bons musiciens, de bons guitaristes qui ont de très bonnes voix et on les met en rapport avec le stock de contes qu'il y a là-bas et on les envoie aussi collecter des contes. On met à leur disposition des enregistreurs pour qu'ils puissent avoir les comptes dont ils ont besoin. C'est ça qui est important. Donc, dès qu'ils le font, on met en place une structure de fonctionnement. Et on organise aussi ce qu'on appelle la grande parole. La grande parole, c'est on fait venir les meilleurs conteurs du monde pour qu'ils donnent des spectacles, mais qu'ils donnent aussi des spectacles dans la rue. Donc, on a ce processus-là, création de spectacles. On a aussi organisation de recherche. Les chercheurs, on est affiliés à l'Université de Dakar, on fait beaucoup de recherches sur le patrimoine et on a mis en place une chorale de 35 enfants. Et cette chorale-là, pour nous, c'est dire aux enfants qu'ils peuvent être des conteurs, qu'ils peuvent être des chanteurs, mais on les encadre aussi dans le domaine de l'enseignement. Et on a un partenariat avec les écoles. Actuellement, l'UNESCO nous a demandé de créer des modèles de fiches pédagogiques pour montrer comment on peut enseigner le conte oral à l'école. Et on est en train d'y travailler, c'est notre projet jusqu'en mars.
Moi je me demandais, je pense que vous voyagez beaucoup autour du conte, que vous avez dû récolter au Sénégal, en Afrique de l'Ouest et sûrement ailleurs dans le monde beaucoup de contes. Est-ce que vous en découvrez encore de nouveaux aujourd'hui? Et si oui, parce que j'imagine que oui, quel est le dernier conte que vous avez découvert?
Le dernier conte que j'ai découvert, pour être honnête avec vous, c'est hier nuit. Hier nuit, parce que j'ai, depuis quelque temps, la dernière fois que je fais avant de me coucher, c'est parce que quand je voyage, en fait, je rentre dans tous les lieux où on vend des livres dans les différents pays qui ne sont pas des pays africains et j'achète les compilations de contes. Et hier nuit, j'ai découvert un conte dans une série que je ne connaissais pas et qui sont des contes ouest-africains. Donc c'est un conte assez long, mais assez utile, parce que c'est comment un homme malhonnête peut arriver à entasser des richesses, mais comment il finit mal, parce que c'est quelqu'un qui a une lentille et qui va avoir une dame qui lui dit « je te confie ma lentille », qui revient, la poule de la dame a mangé la lentille et qui lui dit « ok, ben voilà, mange la lentille ou poule ». Il prend la poule, il confie à quelqu'un qui a un porc, le porc mange la poule, il récupère le porc, il va le confier à quelqu'un qui a une vache, la vache donne un coup de corne au porc qui décède, il récupère la vache, il va voir une dame, il dit « bon, garde ma vache », et derrière il fait voler la vache et il lui dit « tu me donnes ta fille ?» Bon, il dit « ou tu me donnes de l'argent, de l'or ?» La dame n'a pas de l'or, il prend la fille, met dans un sac, il va voir la grand-mère de la fille qui est très riche. Et la fille arrive à dire à sa grand-mère, ce monsieur-là, c'est un truand, voilà ce qu'il a fait pour me récupérer. Et la grand-mère dit, ok, donne la fille, ce soir tu viendras récupérer, ou si je n'ai pas la fille, je te donne de l'or. Et en temps, elle prend son chien qu'elle met dans le sac, récupère sa fille. Et dès que l'homme va au milieu de la forêt, attache pour voir si c'est la fille, le chien lui arrache son nez. Voilà, il arrache son nez et court retrouver son maître. Donc ça, c'est un conte que j'ai découvert hier. Et quand j'ai analysé, je me suis rendu compte que c'était un conte qui était pris en Afrique de l'Ouest, mais je ne connaissais pas ce conte-là du tout.
Et est-ce que vous écrivez des contes? Parce que là, quand vous racontez ces contes, on voit qu'on traverse un peu la société, on raconte des choses, on parle de choses très matérielles, presque quotidiennes. Et je me demandais, est-ce que vous travaillez avec des jeunes gens qui parlent, qui peuvent raconter via le conte des histoires qui incluent aussi, je sais pas, des petites choses qu'il y avait pas avant. Je pense à, je sais pas, toute l'utilisation des smartphones, des téléphones ou d'autres choses.
Mais oui, j'écris beaucoup de contes. Je collecte beaucoup de contes. Et dès mon premier recueil de contes en 2008 déjà, j'avais fait un conte et j'avais regardé une exposition ici d'un artiste plasticien qui est décédé aujourd'hui, Matar Pouy, et j'avais vu un personnage qui n'avait plus de jambes. Et j'étais dans la salle et j'étais seul et à un moment, il paraît que je parlais à haute voix. Et quand je me suis retourné, il y avait une quinzaine de personnes derrière moi. Je me suis rendu compte que j'étais en train de parler. En fait, je racontais une histoire qui est née de ce tableau-là. Et ça s'appelait « La grenouille et la femme battue ». Et c'est dans mon premier livre de contes qui s'appelle « Héritage ». Et plus tard, c'est devenu un conte pédagogique qui a été traduit en latin, en roumain, en catalan, en portugais, en espagnol et qui est disponible sur Internet et que l'Union latine avait pris comme module d'enseignement multilingue. Donc voilà, moi je collecte, mais il y a des thématiques qui sont actuelles. J'ai hérité de comptes avec des cases, il faut que je laisse des comptes avec des ordinateurs. Parce que dans 200 ans, ce que je suis en train de faire deviendra patrimoine. Donc c'est vraiment de la création. Et actuellement, je suis en train de terminer un album qui est là dans mon sac, qui s'appelle Sacré Jumelles, qui aborde la question des jumelles et des albinos. Il y a des communautés où les jumelles et les jumeaux sont considérés comme une chance, d'autres où sont considérés comme une malédiction. Les albinos aussi considérés comme une chance par certaines communautés, etc. Donc là, le prochain conte qui sortira en janvier, qui est un album de jeunesse, c'est autour de cela. Celui qui est sorti en 2016, L'Or du Sage, parle de l'éducation. Donc je publie de plus en plus des contes qui sont inventés pour parler aux enfants.
On vous a déjà pris presque une heure de votre temps, peut-être parmi les dernières questions ou la dernière question. Vous disiez tout à l'heure, on n'écrit pas du noir sur du noir, on n'écrit pas du blanc sur du blanc, et vous avez dit ailleurs, la parole n'est pas dans la parole, elle est dans le silence. Je me posais une question sur la façon de raconter les contes, sur le comment du dire du conte. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole n'est pas dans la parole, elle est dans le silence? Ça veut dire qu'en fait, raconter un conte, c'est d'abord ménager le silence qui va permettre de faire entendre ce qu'on va raconter. Comment est-ce qu'on dit un conte, en fait? La question que je me pose, c'est celle-ci. Quel est le comment du comment, quoi?
C'est une très bonne question, parce que c'est comment on dit un conte. Aujourd'hui, il y a une tendance qui veut nous faire réciter des contes. Le conte ne se récite pas. En Afrique de l'Ouest, traditionnellement, quand on disait le conte, alors que quand on ne l'avait pas perdu, la communauté connaissait le conte mieux que le conteur. Ce qui était intéressant, c'est la performance. Comment il va raconter ? Parce que la compétence, c'est connaître le conte. La performance, c'est raconter. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que quand on raconte à un public, on raconte à un public qui ne nous connaît pas. Avant, on racontait à un public qui nous connaissait. Donc la première chose qu'il faut poser, c'est comment communautariser ces gens qui arrivent d'horizons divers, comment en faire une communauté pour les faire voyager. Donc raconter, c'est maîtriser son souffle. Raconter, est-ce que dans une prison, on va raconter des contes où on sanctionne quelqu'un ? Ou est-ce qu'on va raconter un répertoire qui valorise des gens qui essaient de s'en sortir? Est-ce qu'on peut aller dans un hôpital et raconter des contes de la mort? Ou est-ce qu'il faut raconter des contes de la vie? C'est donc apprendre d'abord à construire son répertoire. Et c'est pourquoi je dis parler, ce n'est pas parler. Parler, c'est savoir utiliser son silence comme parole. C'est lorsqu'on a fini de parler que nos mots résonnent dans la conscience de l'autre. Si après avoir parlé, la personne ne reste pas avec notre parole, nous n'avons pas parlé, nous avons dit. Dire et parler, c'est différent. On peut dire des choses qui n'ont aucun sens. Mais quand on parle, on fait usage de notre propre souffle qu'on transmet dans l'oreille de quelqu'un. Mais ce qui entre dans l'oreille, c'est de l'air. Et cet air-là qui entre doit rester dans une conscience pour demain alerter la personne. C'est pourquoi pour moi, raconter un conte, ce n'est pas apprendre un texte par cœur, essayer de trouver des effets, comme si les gens étaient des automates sur qui il fallait distribuer des billets automatiquement. Non, le public n'est pas un public d'automates. Vous pouvez raconter de cette manière-là en France, ça peut marcher, mais je me suis retrouvé il y a 2 mois en Norvège, dans un peuple, face à un peuple qui n'est pas francophone. Je devais raconter avec quelqu'un sur scène pour partir de mon français à son anglais pour toucher du norvégien. Je dois savoir comment me taire et pendant quel temps me taire pour que sa parole résonne, mais que ce ne soit pas sa parole, mais la mienne. Et ça, c'est très technique. C'est pourquoi aujourd'hui, dire des contes sur scène, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre le conte en tant qu'activité sociale, qu'une mère dit à son enfant, qu'un père dit à son enfant le soir, et le conte en tant qu'art de la scène. Et dès qu'on fait la différence entre les deux, le rythme change, l'intonation change, le répertoire change, l'environnement change et le rapport au public change.
Pour finir, est-ce que vous accepteriez de nous raconter un dernier conte, de nous dire un dernier conte?
Un dernier conte, peut-être un conte. Il y avait un enfant qui disait à son père, je sais mieux les choses que toi. Le père l'avait bien formé, il l'avait très bien formé. Et cet enfant-là était devenu un génie. Il était vraiment génial. Il arrivait à résoudre des situations qu'aucun enfant du village ne pouvait régler. Un jour, il dit à son père, père, j'ai tout appris de toi. J'ai tout appris de toi. Je sais que tu n'as plus rien à m'enseigner. Je veux m'affranchir de toi. Et le père lui dit, on fait un dernier test, va voir ton oncle et va apprendre des choses avec lui. Il fait 2 ans chez son oncle et il revient. Et lorsqu'il revient, il dit à son père, si tu veux voir quelqu'un de nul, nul, certifié ISO 2019, va voir mon oncle. C'est l'homme le plus nul de la terre. Le père lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, j'ai fait 2 ans chez mon oncle, il n'a jamais ouvert la bouche. Parce qu'il n'a rien à dire. Le père lui dit, non mon fils, tu es passé à côté de la leçon essentielle de ta vie. Ton oncle t'enseignait à te taire. Car la parole souffre de 3 choses. D'être dite quand il ne faut pas la dire, d'être dite où il ne faut pas la dire et d'être dite par qui ne doit pas la dire. Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends.
Vincent Baguet, merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Allô ? Oui, c'est Radio Monobloc, oui. Merci.